vous m'en direz tant ?
Voici un nouveau mot à se mettre en bouche, l'agnotologie. C'est même une nouvelle science, qui ne semble dater que des années 90. Le mot est formé à partir du grec agnostos, ignorant aujourd'hui. L'agnotologie est donc la science de l'ignorance, tout un programme. Agnostos est lui-même issu de gnose, la connaissance. Notre ignorant n'est point du tout bête, il est simplement privé, éloigné de la connaissance. Donc, et avant de bien comprendre de quoi cette nouvelle science s'occupe, il faut définir la connaissance qui ferait défaut à ces sujets d'investigation. Il s'agit tout simplement de la connaissance scientifique. Redonc, voici des chercheurs qui essayent de comprendre pourquoi le savoir que la science a créé, les vérités qu'elle dispense généreusement, restent à l'écart de certaines personnes. Bref, pourquoi celles-ci ne croient pas en elle ? Tout de suite, une quantité de bonnes raisons viennent à l'esprit. Plus le temps passe, et plus le savoir humain s'accroît. Il est donc normal que nous devenions de plus en plus ignorants, puisqu'il y a de plus en plus à connaître. Pire, ce savoir est de plus en plus distant de notre expérience habituelle. Lorsqu'on nous parle d'années-lumière, de milliards d'années-lumière, de temps qui dépend de la vitesse de déplacement et même de la gravité, lorsqu'on nous parle d'espace-temps, de relations entre la masse et l'énergie, à nous qui ne connaissons que l'énergie qu'il faut dispenser pour soulever une masse, à nous dont l'existence n'occupera qu'un petit espace de temps bien trop court. Mais le temps est un grand maître, même s'il tue ses élèves. Et nous avons fait des progrès dans le dépassement de nos sens. Il aura bien sûr fallu du temps pour que nos ancêtres acceptent que ce n'étaient pas les astres qui tournaient autour d'eux, mais eux qui tournaient. Il aura fallu du temps pour que l'homme accepte qu'il n'était pas au centre du cosmos et que, incidemment, le cosmos n'avait pas de centre. Certains ne semblent pas avoir eu assez de temps et pensent encore que la Terre est un disque plat. Ce qui intrigue notre nouvelle science est justement pourquoi, alors qu'une immense majorité accepte des vérités scientifiques, quelques autres les refusent. On pourrait se dire bah, « tant pis pour eux ». Mais sans aller jusqu'à un exemple aussi provoquant que la platitude de la Terre, il semble que les vérités scientifiques aient de plus en plus de mal à se frayer un chemin dans les consciences. Pourquoi tant de gens ne croient pas dans le changement climatique, dans l'efficacité des vaccins ? Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais. La science ne se préoccupe pas de l'âme, mais sans conscience au pluriel, qui veulent bien croire en elle, eh bien, elle a un sacré problème. L'agnotologie ne s'intéresse pas tant à ceux qui sont restés à l'écart de la science qu'à ceux qui la refusent. On refuse une connaissance parce qu'elle nous dérange. Il est bien plus rassurant de croire en un Dieu à l'image de l'homme qui aurait tout créé que d'admettre que nous sommes un peu là par hasard et que nous sommes en tout cas totalement insignifiants. Non seulement nous avons tendance à refuser certains savoirs, mais il y a des gens qui les combattent avec pugnacité. Copernic, Galilée, plus tard Darwin, heurtaient les vérités distribuées surtout par l'Église. Ils en ont pâti. Plus récemment, les intérêts industriels et financiers ont été dérangés par des révélations scientifiques. Comme l'Église en son temps, ils les ont combattus. Historiquement, notre agnotologie est née en 1992 en examinant les détails de la lutte des marchands de tabac et des tabacologues, les uns disant que le tabac pouvait être mortel, ce que les autres contestaient évidemment. On a découvert quelle stratégie avaient employé les cigarettiers pour discréditer la recherche médicale. On a mis la main sur des tonnes de documents expliquant la mise en œuvre de recherches peu sérieuses, prouvant que le cancer du poumon ne pouvait en aucun cas être lié au tabagisme, ou du moins à lui seul. Cette stratégie consiste, comme on dit familièrement, à noyer le poisson, à instiller le doute dans la population. Et c'est très malin, car justement, le doute est au centre de toute science, qui doit obstinément douter de tout et d'abord d'elle-même, avant qu'une évidence s'impose à elle. Lorsque les gens comprennent qu'au fond, les scientifiques eux-mêmes doutent, ils croient un peu moins en eux. La même stratégie a été employée pour les marchands de sucre, qui ont accusé le gras d'être l'auteur des troubles de santé, en réalité attribuables à l'excès de consommation de sucre. Puis on a refait la même chose avec l'amiante. On a cherché et trouvé, évidemment, tout un tas de causes naturelles à la mortalité nouvelle des abeilles, de manière à disculper les pesticides, que, du coup, les États eux-mêmes peinent à interdire. Que ces causes naturelles aient toujours été présentes ne semble pas avoir ému nos chercheurs au service d'intérêts financiers. Il y aurait donc des ignorants naturels et des ignorants fabriqués par ce que l'on peut appeler une propagande favorable à des intérêts privés. Prenons l'exemple des climato-sceptiques, nombreux aux USA et notamment chez les partisans de Trump. D'une part, les recherches sur le climat risquent d'influencer leur mode de vie, leurs revenus. Ils sont donc déjà dans une tendance au refus naturel. Mais cette tendance a été puissamment encouragée par une communication à la pointe du progrès. Les voici maintenant persuadés, et pour combien de temps ? Que le changement climatique est un vaste complot ourdi contre eux. On assiste aujourd'hui à une multiplication de ces théories du complot. C'est qu'il est bien plus simple et plus rassurant de s'exonérer et de réfléchir et de changer son mode de vie en s'abritant derrière une telle théorie. La science nous dit de ne pas fumer, de ne pas boire d'alcool, de ne pas trop manger de viande, de moins utiliser de carburants fossiles. Autant d'entreprises malveillantes contre les cigarettiers, les viticulteurs, les éleveurs, les pétroliers, etc. Lorsqu'on se sent seul à ne pas admettre certaines choses, on est inquiet. On est tenté de se remettre en question. Mais avec le développement des réseaux sociaux, on n'est plus jamais seul. La constatation que des milliers d'autres pensent comme vous suffit à vous donner raison. Irait-on vers une sorte de démocratie directe de la vérité ? Pauvre science. Mais elle a l'habitude. Depuis toujours, elle baigne dans la société, fait avec, et creuse son sillon malgré les oppositions, les difficultés. Elle a toujours su trouver quelque puissance qui la soutenait, par conviction ou par espoir d'en tirer de l'intérêt, peu importe, le résultat est là. La guerre, par exemple, a été un puissant soutien de la recherche. Mais bon, la guerre finie, la recherche a continué. Vous voici moins ignorants, et donc moins intéressants pour les anoctologues.